Luc chapitre 12, verset 6. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. La phrase qui nous intéresse dans ces deux versets est celle-ci. Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Vous le croyez ça?
Que Dieu s'intéresse aux volatiles? Vous le croyez? Aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Ça vous arrive jamais quand vous, en voiture, qu'il y a un moineau qui passe trop près du pare-brise, vous entendez tout. Non? Ça vous arrive? Et quand je dis, tiens Seigneur, quand même tu le permets. C'est vrai, hein? Non? Ça vous est jamais arrivé de tuer un moineau en voiture? Ça arrive, hein?
Le Seigneur, il est catégorique. Vous savez que Jésus, il ne dit pas la vérité. Il est la vérité. Aucun oiseau n'est oublié devant Dieu. S'il nous le dit, vous allez comprendre pourquoi. Dans Ésaïe, au chapitre 49, nous allons lire un autre texte qui exprime la même pensée. C'est important, mes frères et sœurs, quand on veut marcher avec Dieu, de savoir que Dieu ne nous oublie jamais. S'il n'oublie pas les oiseaux, vous vous doutez bien que... Hein? Ésaïe 49. Ésaïe 49, si on représente le peuple d'Israël, dont par projection il représente l'Église, on va lire à partir du verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. Le peuple d'Israël se plaignait, et le Seigneur m'abandonne, et le Seigneur ne pense pas à moi, et le Seigneur m'oublie, et Dieu, dans sa grâce, va leur répondre, non, ce n'est pas vrai. Moi, je n'oublie pas. Si une femme était même capable d'oublier son enfant, moi, je ne t'oublierai jamais. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que vous soyez pétris de cette pensée. Dieu ne nous oublie jamais. Il pense à nous et il ne faut pas que nous nous privions de sa grâce. Cet après-midi, comme chaque fois que nous nous réunissons, Dieu est là pour nous bénir. On le chante régulièrement, Dieu est là pour te bénir. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu veut bénir, mais est-ce que vous croyez aussi que nous pouvons nous priver de la grâce de Dieu? Que nous pouvons ne pas recevoir la grâce de Dieu? Il est dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que la parole de Dieu m'est présentée, la parole de Dieu elle est prêchée, je la reçois, mais en vérité elle n'atteint pas mon cœur. Donc c'est comme si je ne la recevais pas. Et je repars chez moi aussi vide que ce que j'étais au préalable. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit « Mais que votre cœur soit affermi par la grâce. » C'est bien d'avoir un cœur affermi, d'avoir un cœur fortifié par la grâce du Seigneur. Oui, on parle dans le monde de la grâce. Dans le monde, les gens parlent de la grâce. On parle des fois de telles danseuses, d'opéra. Oh, vous entendez les journalistes. Oh, quelle grâce, la beauté du geste. Vous en entendez dans le sport, ça, hein? Il y a même une émission, une présentation d'une émission sportive où justement il dit la beauté du geste. Vous voyez laquelle c'est, hein? La beauté du geste. On parle de rendre grâce à table. Est-ce que vous avez rendu grâce à midi? Est-ce que vous avez remercié le Seigneur pour le repas? Bon, c'est déjà quelque chose. On parle de certaines personnes qu'elles sont pleines de classe. Et des fois on dit, oh quelle grâce cette personne quand elle arrive oh, à tel concert. Elle amène la grâce. Enfin, bon, alors je veux bien que certaines personnes amènent une certaine classe quelque part, mais la grâce, ce n'est pas ça. La grâce, ce n'est pas la beauté du geste, ce n'est même pas remercier Dieu pour un repas. La grâce, c'est la faveur divine que Dieu accorde à une personne. C'est la grâce que Dieu accorde quand on ne mérite rien. Vous savez qu'on ne mérite pas grand-chose? Qu'est-ce qu'on méritait? Qu'est-ce qu'on a mérité? La condamnation. Quand vous regardez bien, nous avons choisi le péché. Nous avons choisi de désobéir et nous méritions la condamnation. Et Dieu lui dit non, je vous donnerai ma grâce. Vous ne méritez pas, vous ne pouvez pas vous le payer, vous ne pourrez jamais rembourser, mais moi je vous le donne. Et cet après-midi, il faut que nous comprenions que nous avons besoin de cette grâce. Et certains textes de l'Écriture nous montrent vraiment comment Dieu est capable de faire grâce. Il y a un texte excellent dans la Bible pour nous faire comprendre comment Dieu nous cherche pour nous faire grâce. Le texte, quand il nous parle des passereaux ou des moineaux, nous montre bien que Dieu n'oublie personne. C'est nous qui ne l'en voulons pas. C'est nous qui ne le cherchons pas. C'est nous qui ne nous intéressons pas à Dieu. Mais lui, il s'intéresse à nous. Alors on va lire ensemble un texte dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel, c'est un livre extraordinaire, le livre de Samuel. Comme le livre du Lévitique que vous lisez chaque matin. 2 Samuel, chapitre 9. C'est au début de la royauté de David. David est monté sur le trône après de longues et longues années d'épreuves, de longues années d'apprentissage pour être roi. Il a fait venir l'arche à Jérusalem et il est dans le repos. David est dans le repos et là il réfléchit. Il réfléchit à beaucoup de choses et il va penser à l'amitié qu'il avait avec Jonathan. Ça, je vous le résume, c'est écrit ailleurs. Et il s'est rappelé d'une promesse qu'il avait faite. On peut le lire, ce verset que je vous résume. C'est 2 Samuel 9, verset 1er. Voyez, il a réfléchi et tout d'un coup, il se pose une question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il avait fait une alliance avec le fils du roi et là, il s'en est souvenu. Il s'est souvenu de cette promesse. Alors nous allons lire. Donc, on va lire la suite. Verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tziba, que l'on fait venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tziba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tziba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tziba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, tel que moi? Le roi appela Tziba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute ta maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs. Tu feras tes récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Amen. On peut lire le verset 13. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Et ça termine par cette phrase. Il était boiteux des deux pieds. Voyez, quelle histoire. Pourquoi David a-t-il fait cela? Est-ce qu'il était obligé de le faire? Est-ce qu'il était obligé de chercher à faire du bien à quelqu'un de la famille de Saül? Si vous connaissez l'histoire, les années difficiles que Saül a traversées avant d'être roi, il aurait pu penser à tout, sauf à faire du bien à quelqu'un de Saül. Si, il aurait pu penser à exterminer toute la famille. Vous savez que ça marchait comme ça. Quand un roi accédait à la royauté, je peux vous dire que la première chose qu'il faisait, il exterminait la famille. Mais ça se fait encore, hein. C'est pas nouveau cette affaire. Pourquoi David? Il avait fait une promesse. Il avait fait une promesse à Jonathan. D'ailleurs, Jonathan lui avait fait faire la promesse. Quand tu accéderas au trône, il savait qu'il accéderait au trône. Hein, fais grâce à ma famille. Prends soin de nous. Et Jonathan et David lui a fait la promesse. Reste-t-il quelqu'un dans la maison de Saül? Alors que franchement, j'y reviens. Vous avouerez qu'il aurait pu faire le ménage, David. Mais quelle projection spirituelle!
quand vous vous rendez compte ce que le Seigneur fait, il fait exactement la même chose. David n'a pas dit, dans la maison de Saül, est-ce qu'il y a quelqu'un de bien? Parce qu'après tout, il aurait pu faire grâce à quelqu'un de bien. Est-ce que Dieu fait grâce aux gens qui sont bien ou est-ce que Dieu fait grâce à tous les hommes? Quand Jésus a dit un jour, dans une place sûrement, « Venez à moi vous tous », est-ce qu'ils étaient tous bien, d'après vous? Est-ce qu'il n'y avait que des gens bien? Est-ce qu'il y avait des gens, des voleurs, des impies? Est-ce qu'il y avait des gens, je ne sais pas moi, comme Jérémie? Est-ce qu'il y avait des gens de toutes sortes? Hein? Eh oui, tous! Et là, on voit cette notion de la grâce au travers de cette histoire. David ne dit pas, y a-t-il quelqu'un d'intègre? Y a-t-il quelqu'un excellent, de qualifié? D'ailleurs, son serviteur lui dit, si, il y a quelqu'un, mais il est boiteux. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? David, tu vas faire rentrer dans ton palais un handicapé? Non, mais c'est sérieux. C'est ça que ça veut dire. Il y a bien quelqu'un, mais attends, mais tu te rends compte, un handicapé dans le palais, avec ses béquilles, franchement, David, t'es sûr que tu veux un gars comme ça? Quelle image extraordinaire de la grâce de Dieu. Il y avait quelqu'un. Et le serviteur du roi le lui fait bien remarquer. Vous ne trouvez pas merveilleux que Dieu il nous accepte tel que nous sommes, avec nos béquilles? Ouais. Le Seigneur, il nous accepte. Peut-être que cet après-midi, vous dites, moi, je boite beaucoup. Et je suis loin de Dieu. Je suis loin du palais du roi. Je suis exactement comme Mephibosheth. Vous avez vu où il était? Il était dans le désert, pensez donc. Certainement qu'il se cachait, d'ailleurs. Lodebar, ça veut dire sans pâture, ça veut dire le désert. Cet homme était boiteux. Vous savez comment il est devenu boiteux? Il était devenu boiteux? Regardez avec moi, dans 2 Samuel, au chapitre 4. Regardez comment nos enfants, dans les églises, c'est une image, mais enfin quand même. Regardez bien. 2 Samuel, chapitre 4. On va lire juste ce qui nous intéresse. 2 Samuel 4, verset 4. Ça, c'est un verset. Toute la Bible a été écrite pour notre instruction. Ce qu'on lit est extrêmement important par rapport à la grâce. Que Dieu veut faire grâce, que s'il n'oublie pas un oiseau, laissez-moi vous dire qu'il ne vous oubliera pas. 2 Samuel 4, 4. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds. Il était âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jisréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Vous avez vu comment il a été perclus des pieds en se précipitant. Vous savez, mes frères et sœurs, ça nous enseigne que lorsque l'on se précipite dans nos décisions, on peut rendre des situations boiteuses. Il ne faut jamais se précipiter. Dieu nous a donné des enfants. C'est pas pour qu'il boite, c'est pour qu'il soit fort. Vous êtes d'accord? Même si on voit dans cette histoire que Dieu va récupérer cette situation, il n'empêche qu'il ne faut jamais se précipiter avant de prendre certaines décisions et surtout ne pas fuir. Parce que c'est dans la fuite. Bon, mais là, ça s'explique. Mais c'est quand même, ça fait pitié quand même. Ce gosse, à partir de 5 ans, jusqu'à la fin de sa vie, est resté boiteux des deux pieds. Et voilà donc, ce gosse, bon, il est tombé, après que son père et son grand-père sont morts, donc il y avait un changement de roi, il fallait qu'il fuit. Il fallait qu'il fuit, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça allait mal lorsqu'il y avait un changement de royaume. Et voilà qu'un soldat va s'approcher un jour de sa maison et va lui dire, le roi veut te voir. Qu'est-ce qu'il a dû penser? Qu'est-ce qu'a dû penser cet homme quand il a appris que là-bas, dans sa maison cachée dans le désert, le roi voulait le voir? Moi, je vais vous dire ce qu'il a pensé. D'ailleurs, si David va lui dire « ne crains pas », il a dit se dire « ça y est, c'est terminé ». Il va se venger, il va se venger. Ah, mais ce que mon grand-père lui a fait voir, eh bien, c'est moi qui vais payer la monnaie. C'est pas vrai? Mais c'est ça qui aurait dû se passer. Et cette histoire, elle nous enseigne justement ce qu'est vraiment la grâce de Dieu. Le roi veut te voir. Oui, il a dû penser que c'était fini. Mais quel moment merveilleux pour cet homme. Vous ne croyez pas que c'est un moment merveilleux quand un homme apprend sur la terre que le roi des rois veut le rencontrer? Est-ce que vous savez que le roi, il veut vous voir? Vous le croyez? Vous me regardez d'une manière bizarre. Est-ce que vous croyez que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il veut vous rencontrer, il veut vous connaître, il veut vous voir, il veut vous avoir avec lui? Écoutez, frères et sœurs, si les oiseaux, le Seigneur ne les oublie pas, il faut croire que nous qui sommes éternels, Dieu ne peut pas absolument nous oublier. Oui, cet homme devait s'attendre au pire. D'ailleurs, quand on parle et qu'on dit aux gens que Dieu veut les bénir, beaucoup de gens ne sont pas du tout convaincus de ça. Les gens, si on leur dit « Dieu veut te rencontrer », pourquoi il veut me rencontrer? Imaginez-vous, franchement, c'est pourquoi il veut me rencontrer? C'est vrai, je suis un pécheur, j'ai fait le mal, ma famille a fait le mal, on a tous fait le mal. Ah, ça va tourner mal pour moi. Non. David, lorsqu'il va rencontrer Méphibosheth, va lui dire, on l'a lu, « Ne crains pas, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, et je te rendrai toutes les paires que Saül, ton père, et tu mangeras à ma table, etc. » Il a dû se pincer sûrement. Vous vous rendez compte? Cet homme qui aurait pu être tué sur place d'un coup d'épée, il s'entend dire « Non, 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 n'aie pas peur. Tu sais pourquoi je voulais te voir? Je voulais te voir pour que tu manges à ma table tous les jours de ma vie. J'espère que vous commencez à comprendre la projection spirituelle. Je veux te rendre ce que tu as perdu. Peut-être que vous avez perdu votre dignité. Vous avez tout perdu. Parce que dans la fuite, vous vous êtes cassé les pieds. Vous êtes cassé les chevilles. Et Dieu vous dit, je veux te voir, je veux tout te restituer. Je ne sais pas ce qu'il a pensé, mais je crois qu'il a dû être bouleversé dans son cœur. C'est pas possible cette affaire. Je vais manger à la table du roi toute ma vie. Qu'est-ce que c'est formidable. Je suis sûr qu'il n'a pas dû y croire. Mais ça, pourquoi c'est écrit? On n'était pas obligé d'avoir cette histoire dans la Bible. Oui ou non? Est-ce que vous avez toutes les histoires qui sont passées en Israël? Non. Cette histoire, elle a été dans la Bible, pour notre instruction, pour nous enseigner la portée de la grâce. Quand il est dit « Je désire vous faire grâce », l'Éternel désire vous faire grâce, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Je le répète, ça a été écrit pour notre instruction. C'est ce que Dieu veut nous faire vivre à nous. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont eu peur et ils se sont cachés. Le résultat, l'humanité entière est devenue boiteuse. C'est vrai ou c'est pas vrai? Exactement. Méphibosheth aurait dû avoir cette bénédiction toute sa vie. Toute sa vie, il était le fils du roi, le petit-fils du roi. Non, mais il aurait dû être donc un roi peut-être un jour. Oui ou non? Mais voyez comment ça a tourné à cause du péché dans la maison de Saül, comment les choses ont mal tourné. Mais par amour pour Jonathan, David a amené la bénédiction sur ce garçon. Mais ce n'est pas la même chose pour nous. Ce n'est pas par amour pour nous que Dieu a envoyé son fils sur la terre pour payer notre rançon. Mais c'est plus grand, parce que là, c'était une promesse. Mais Méphibosheth, les années où il a vécu dans le désert, est-ce qu'il savait la promesse que David avait faite à son père? Est-ce qu'il le savait? Mais non, il ne peut pas le savoir. Est-ce que vous savez, vous, la promesse que Dieu a faite pour vous? Il y a des gens, ils ne savent pas. Dans le monde, les gens qui traversent la rue, là, les gens que vous côtoyez tous les jours, est-ce qu'ils sont au courant de la promesse que Dieu leur a faite? Ils ne savent pas. Ils n'en veulent pas d'ailleurs. Est-ce que Méphibosheth aurait pu refuser? Est-ce qu'il aurait pu dire aux serviteurs du roi, écoutez, non, 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 ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de voir le roi, ça va mal se passer. Est-ce qu'il aurait pu rester dans son désert? Ben oui, il aurait pu rester. Il n'aurait pas forcé. Mais d'ailleurs, c'est écrit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, que le Seigneur les invite. Il n'y a pas des paraboles dans la Bible qui nous montrent que Dieu nous invite, il invite tous les hommes pour les avoir à sa table, que tout est prêt, le repas est prêt, et que les gens n'en veulent pas. Cet homme, il a accepté. Est-ce qu'il a bien fait, Méphibosheth, d'accepter l'invitation ce jour-là? Est-ce que vous croyez que c'était bien? Et Dieu continue, il continue, il cherche, et cette parole que David a prononcée, enfin que le serviteur de David a prononcée devant la maison de Méphibosheth, le roi veut te voir, cette parole, elle résonne chaque fois qu'on prêche l'évangile, c'est exactement le même principe, Dieu dit aux hommes, le roi veut te voir. Moi je peux vous dire, comme le serviteur de David, que je suis un serviteur de Dieu, et je vous dis à tous, si vous n'êtes pas encore sauvés, le roi veut vous voir. Et pourquoi il veut me voir? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Tant que c'est la dispensation de la grâce, le roi, il veut vous voir pour vous avoir à sa table. Vous êtes peut-être perdu dans vos offenses, dans vos péchés. Peut-être que vous boitez, blessé, brisé, lié, enchaîné. Il y a des gens qui sont enchaînés par toutes sortes de passions.
Mephibosheth ne méritait que la mort. Il ne méritait rien du tout, de toute façon. Il ne pouvait rien faire, mais la promesse était là. Et Dieu a fait une promesse. Dieu a promis de donner son fils pour que les hommes ne soient pas jugés, mais pour qu'ils soient sauvés. Il n'a pas cherché la faveur du roi, c'est le roi qui a cherché la faveur pour lui. Il aurait pu rester caché, il aurait pu se cacher encore plus longtemps, il n'a pas fui. Cet après-midi, est-ce que vous faites partie de ceux qui fuyaient la grâce, de ceux qui fuyaient la bénédiction? Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Soyez fortifiés par sa grâce. Combien de gens fuient Dieu? Combien de chrétiens fuient Dieu? Dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné, vous croyez qu'il vivait de la grâce de son père? Il était en colère lorsque son frère est revenu. Il ne vivait pas dans la grâce de Dieu. Il n'avait pas rétrogradé officiellement, mais il représente des chrétiens qui sont dans la maison et qui se privent de la grâce de Dieu. Non, ne nous cachons pas. Ne fuyons pas. Ne cherchons pas à faire toutes sortes de choses. Acceptons l'évitation. Si David s'est souvenu du fils de Jonathan, laissez-moi vous dire que Dieu se souvient de vous et se souvient des autres. Il saura les mettre sur son chemin. Vous croyez que Dieu peut se mettre sur le chemin de quelqu'un? Sérieusement, est-ce que vous croyez qu'une personne pour laquelle vous priez, Dieu peut diriger les circonstances? Il y a une dame qui est venue l'an dernier. Elle est venue, elle me l'a dit. Vous ne savez pas comment je suis venu? Non. Elle me dit ce matin, je me suis levé dans le bus, une personne m'a parlé du Seigneur et m'a donné l'adresse de l'église, ici. Je suis arrivé chez le docteur, dans la salle d'attente. Une dame a parlé de Jésus et m'a donné l'adresse d'ici. Je suis reparti à la maison et dans un magasin, une dame avec qui j'attendais mon tour m'a parlé du jeu de Jésus et m'a donné l'adresse d'ici. Je lui ai dit, vous aviez bien fait de venir ici. Mais vous ne croyez pas que Dieu l'a cherché cette femme? Sérieusement, elle me dit, je suis toute bouleversée. Et j'ai pensé, je suis sûr qu'il y a des gens de sa famille qui prient pour elle. Elle n'est jamais revenue. Peut-être elle a été dans une autre église, parce que je ne sais plus où elle habitait, et je lui avais dit, vous savez, vous avez une église juste à côté de chez vous. Peut-être elle a été dans cette église, je n'en sais rien. Mais vous croyez que Dieu peut le faire pour n'importe qui? Que Dieu, il peut changer les temps et les circonstances. Oui, le roi du ciel, il veut vous voir. Il veut vous voir, non pas juste pour un petit coucou et au revoir. Le roi du ciel, il veut lui aussi vous avoir à sa table. Ce n'est pas écrit quand Jésus parle de la foi de certains pharisiens qui sont pleins d'incrédulité. Il dit oui, mais beaucoup seront assis à ma table avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne le dit pas ça? Ils seront assis à ma table. Mais vous vous rendez compte? Le repas des noces de l'agneau, c'est exactement la même signification. Est-ce que vous voulez être assis à la table du Seigneur un jour? Mephibosheth, il a été, entre guillemets, adopté par David. Mais nous, est-ce que nous ne sommes pas des enfants adoptés du Seigneur? Tous, hein? Quelle image extraordinaire. Je le vois, ce Mephibosheth, avec ses béquilles là, tac, 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 arpentant le palais du roi. Il est resté toute sa vie boiteux. Est-ce que Dieu aurait pu le guérir? Dieu l'a-t-il guéri?
Non.
Ça termine en disant que malgré l'invitation, malgré le fait qu'il était à sa table, il avait tout récupéré, il est resté toute sa vie boiteux. Là aussi, il y a une projection. Nous aussi, des fois, on boite un peu quand même. C'est pas vrai? Non, pas vous. C'est pas vrai des fois que il n'y a pas des faiblesses, des manquements, certains péchés parfois même. Mais restons attachés au Seigneur. Demandons au Seigneur sa grâce de manger tous les jours à sa table. Tous les jours de nous nourrir de sa parole bénie. Oui, le roi, il veut vous voir. Au temps de la grâce, dit le Seigneur, je te secourrai. Au temps de la grâce, je t'entendrai. On pourrait lire tous ces psaumes qui nous montrent combien Jésus a tout accompli pour nous donner la vie. Mes frères et sœurs, je voudrais terminer juste en vous disant que la grâce, je crois que c'est ça, c'est s'approcher à sa table.
Quand Jésus parle aux chrétiens de la Odyssée, il leur dit, mais ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai avec vous. C'est quoi les noces de l'agneau? C'est bien un repas. Vous aimez faire des repas des fois avec des amis? Inviter quelqu'un, vous détendre, passer du temps ensemble. Ça fait du bien, c'est l'image de la communion. Et cet après-midi, je vous le dis pour plusieurs, saisissez cette parole, prenez-la au sérieux. Le roi, il vous invite. Il vous invite déjà ici-bas. C'est David qui disait, tu dresses une table. Et où il a dressé cette table? Dans quelles circonstances? En face de mes adversaires. Dans l'adversité, est-ce que Dieu peut dresser une table? Qu'il est bon, notre Seigneur. Qu'il est bon de nous dire, oui, vous serez assis avec moi et avec Abraham. Avec, après, vous choisissez, bien sûr, Mme Guillaume l'a choisi. Mais je veux dire, on choisit, bien sûr qu'on ne sait pas, peut-être on sera avec. Ça va être extraordinaire, cette affaire. Les noces de l'agneau. Quand j'écoutais la chorale, je me disais, quelques choristes, le bien qu'ils peuvent nous faire, je me disais, quand on sera des millions, des centaines de millions. Et les anges, vous croyez qu'ils chantent bien les anges? Avec les anges, vous croyez qu'on chantera tous ensemble? Dans des robes de fin lin? Ça va faire une drôle de chorale quand même. Est-ce qu'il est digne d'autre Seigneur? Et il continue, on ne mérite rien. Il dit non, le roi veut te voir. Demain matin, prends une heure, le roi il veut te voir. Est-ce que vous croyez que ça s'adresse à vous? Le roi demain matin, pour ton culte personnel, toi qui le fais à la va-vite. Le roi veut te voir pour te nourrir et te donner une journée bénie, pour que tu récupères tout ce que tu as perdu. On ferme les yeux quelques instants. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. Si aucun oiseau, qui n'ont en vérité aucune valeur au niveau spirituel, puisque les animaux n'ont pas d'esprit, mais si Jésus vous dit qu'aucun passereau n'est oublié, alors dites-vous bien, il n'est pas prêt de vous abandonner. Il vous veut à sa table. Ici-bas déjà, dans votre maison, vous nourrir. Mais il vous veut à la grande table du festin des noces. Le roi veut te voir, mon frère, ma sœur. Demain matin, dans ta chambre, dans ton bureau, dans ton salon, n'importe, dans un endroit seul. Le roi veut te voir. Il veut que tu récupères les terres, le terrain que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu, Dieu veut te le redonner. Que son nom soit béni.